Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et à tous. Le conflit d'intérêts public-public, qu'est-ce que c'est ? Comment peut-on être en conflit alors qu'on sert deux intérêts publics ? Pourquoi est-ce important ? Que faut-il faire lorsqu'on y est confronté ? Dans 4 minutes, vous saurez tout.
Le conflit d'intérêts public-public. Définition. Le conflit d'intérêts est le plus souvent la conséquence d'une interférence entre un intérêt public, celui attaché à la fonction de l'agent ou de l'élu, et un intérêt privé, celui attaché à la personne même de l'agent ou de l'élu en tant que personne privée. Ainsi en est-il d'un agent qui instruit des dossiers de subvention, son intérêt public, et qui traite d'une demande de subvention de l'association dont il est membre, son intérêt privé. Il existe également un conflit d'intérêts lorsque deux intérêts publics coexistent et entrent en interférence. C'est le conflit d'intérêts public-public. La notion de conflit d'intérêts public-public est contenue dans plusieurs textes de loi. Il s'agit de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relatif à la définition du conflit d'intérêts. L'article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales ou encore l'article 432-12, modifié du Code pénal, relatif à la prise illégale d'intérêt. En pratique, ça donne quoi ? En pratique, un conflit d'intérêt peut survenir pour un agent public, mais surtout pour un élu local qui occupe un mandat électif au sein d'une collectivité territoriale tout en exerçant simultanément, en raison de son statut d'élu, une fonction en faveur d'une autre entité publique, telle qu'un établissement public, une association subventionnée, une régie autonome, un office public de l'habitat, OPH, et d'autres encore. Comment un conflit peut-il émerger dans une telle situation ? Le concept même de conflit entre deux intérêts publics peut interroger, car ces deux responsabilités publiques sont effectivement confiées à un seul et même agent ou à un élu local. Dans cette situation, parce que l'agent ou l'élu poursuit deux intérêts publics, il fait face à une concurrence entre ces deux intérêts au moment du choix. D'un côté, il pourrait être tenté de privilégier les intérêts de la collectivité qu'il a nommée. Tandis que de l'autre, il pourrait être tenté de favoriser excessivement l'entité dans laquelle il est mandataire pour mettre en avant sa propre activité. La difficulté réside non seulement dans l'identification de l'intérêt public le plus légitime, mais aussi dans le maintien de la neutralité et de l'équité en défendant simultanément les deux intérêts. Cela nécessite une conduite indépendante, impartiale et objective dans chaque fonction exercée. Tout comme dans les conflits d'intérêts publics-privés, la résolution des conflits d'intérêts publics-publics implique le retrait d'une opération ou d'un dossier dont on a la responsabilité, partielle ou totale. L'application de la règle de retrait, aussi appelé « déport », consiste à retirer la mission d'un agent territorial ou d'un élu local. Mais ce retrait ou ce déport peut engendrer des problèmes insolubles, car il faudrait, de façon paradoxale, se retirer d'une mission que l'on s'est vu confier. C'est la raison pour laquelle la loi du 21 février 2022, également connue sous le nom de loi 3DS, apporte des ajustements à la notion de conflit d'intérêts public-public. Dorénavant, cette loi admet la coexistence, dans certains cas, de deux intérêts publics portés par la même personne sans qu'il y ait nécessairement un conflit. Cela s'applique, par exemple, aux mandataires d'une collectivité locale agissant au sein d'une autre entité publique, comme un EPCI, un OPH, une entreprise publique, voire d'autres entités similaires. Il est important de noter que sont exclues de cette dérogation des actions telles que le vote du budget, la participation aux commissions d'appel d'offres, l'octroi de marchés publics et le vote pour l'octroi d'une aide financière. Ainsi, en situation de conflit d'intérêts public-public, il est crucial de faire la distinction entre les actions possibles et celles qui ne le sont pas, en recourant éventuellement à l'assistance des référents déontologues.